Le réveil culturel. Toufik Hakem.
La préhistoire, c'est tout sauf une vieille histoire. Bien au contraire, c'est un concept plutôt moderne. À partir de demain, le Centre Pompidou-Beaubourg propose une exposition qui ausculte cette énigme moderne. D'ailleurs, c'est ça le titre de l'expo. Préhistoire, une énigme moderne, ou comment des artistes vont s'approprier ce thème en compagnie des scientifiques ou sans les scientifiques, juste avec leur imaginaire. Deux des trois commissaires d'exposition sont mes invités ce matin. Il s'agit de Cécile Debré et Rémi Labrusse. Bonjour à toutes, bonjour à tous, à vous qui nous écoutez tôt le matin à la radio et à tous les autres, de plus en plus nombreux, merci, qui nous écoutent par le podcast et l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Préhistoire, une énigme moderne, c'est donc la grande exposition de l'été du Centre Pompidou, Beaubourg. Vous pouvez la visiter jusqu'au 16 septembre et elle ouvre demain. Je suis donc avec les deux des trois commissaires de cette exposition, Cécile Debré et Rémi Labrusse. Et donc cette exposition questionne notre rapport à la préhistoire, à cette idée moderne qu'est la préhistoire, vous allez nous le dire, et surtout comment les artistes ont travaillé avec cette idée et avec ces scientifiques. Et dès le début de cette exposition, on est accueilli par cette citation de Borges, « Sur l'ombre que je suis graffite déjà la charge du passé ».
Oui, cette citation qui commence effectivement le parcours de l'exposition est là pour dire que c'est une exposition sur notre rapport avec le temps, pour dire qu'une des définitions de la modernité, c'est d'avoir transformé radicalement notre manière de, pas simplement de penser, mais de vivre le passé, et de le vivre sur un mode qui n'est pas uniquement historique, en comptant, disons, les siècles et les millénaires, mais en éprouvant quelque chose qui n'est pas comptable et qu'on a nommé, la préhistoire. Un peu contre l'histoire, finalement, ou au-delà de l'histoire, pour plonger dans un temps que Buffon disait abyssal.
Cécile Debré, sur ce que vient de dire Rémi Labrusse, c'est aussi une manière de questionner comment les artistes ont imaginé la préhistoire.
Oui, on est parti d'un constat simple, c'est qu'en fait la discipline de la préhistoire se constitue en même temps que l'art moderne. Et donc c'est ce parallélisme qui nous a intéressés et la manière dont les artistes ont accompagné, je dirais, les différentes découvertes mobilières, les découvertes des cavernes, des grottes ornées, et ont en même temps repensé leur expression plastique, souvent sur le mode d'une tabula rasa, soit dans l'idée de réinventer un langage qui se distance en tout cas des expressions académiques. Et donc la préhistoire a souvent été une des sources, ou en tout cas un des moteurs de pensée très actifs pour, je dirais, l'ensemble des artistes du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle, selon des mouvements, des étapes, une histoire comme ça qui se fait par regroupement. Et c'est en fait, l'un des axes majeurs de cette exposition.
Peinture, sculpture, photographie, mais aussi cinéma.
Oui, il est peut-être bon de souligner qu'en fait la préhistoire comme discipline se constitue également en s'appuyant sur la science-fiction, ou la science-fiction s'appuie aussi sur la discipline de la préhistoire. Donc c'est, comme le disait Rémi, cette sorte de réflexion sur la temporalité, sur le temps, qui est évidemment aussi un des déterminants de la science-fiction et qui va irriguer également tous les imaginaires populaires sur nos origines et également sur notre fin qui est annoncée. Donc c'est à la fois, on voit des artistes qui vont s'intéresser très près aux procédures, je dirais, scientifiques, de l'archéologie la plus pointue, aux questions de, par exemple, la vision en 3D, les reconstitutions. Ça, ce sont effectivement des modalités qui intéressent beaucoup les artistes contemporains. Et puis, en parallèle, évidemment, il y a tout ce fantasme des origines, le fantasme également autour de la sexualité, que l'on retrouve tant évidemment chez Picasso, qui est un artiste qui a beaucoup regardé les Vénus paléolithiques, les cavernes également, ou encore la vision d'un des Quirico qui va faire, je dirais, construire sa peinture métaphysique sur une sorte de mythe de la préhistoire et des origines, qui s'inscrit aussi dans une vision philosophique de cette question.
Et dans cette exposition, donc Préhistoire, une énigme moderne, vous avez eu la bonne idée de contextualiser toutes les pièces exposées, c'est-à-dire qu'on a en plus la presse de l'époque, et on voit bien que pour la presse de l'époque, c'était vraiment la grande affaire du XXe siècle, la Préhistoire. Rémi Labrusse.
C'est toujours notre grande affaire. Hein, je pense que c'est plus qu'une découverte, c'est une expérience, c'est une épreuve qui est totalement bouleversante. Hein. Ce qui nous a semblé fascinant, nous, dans cette histoire qu'on raconte, effectivement, hein, on raconte l'histoire de l'invention de la préhistoire, en quelque sorte, c'est le fait qu'il y avait un immense ensemble de connaissances qui avait gravité autour de cet objet, mais que précisément, il gravitait autour d'un noyau irréductible, des choses qu'on ne saura jamais, tout simplement parce que c'est ces milliers de générations humaines qui ont vécu sans l'écriture, sans l'idée même d'une histoire, avec quelque chose de profondément stable en fait dans leur manière d'être. Hein, c'est tout le grand temps du paléolithique. Et ben ces choses-là, ces significations, on ne peut pas les rejoindre. Et du coup, en fait, ce qui m'intéressait dans la discussion qu'on avait, de ce que disait aussi Cécile, c'est cette singularité, disons, de l'idée de préhistoire. La préhistoire, ce qui arrive, c'est, d'où le sous-titre d'ailleurs, une énigme. Hein. Et cette énigme, forcément, elle est prise en charge, c'est-à-dire la nature a horreur du vide. Donc quand le savoir n'est pas là, c'est pris en charge par de l'imaginaire, par de la création. Alors ça ne veut pas dire que c'est du rêve, ça ne veut pas dire que c'est des erreurs, des fantasmes, des vaticinations. Ça veut dire que c'est un mouvement créateur. Et donc la préhistoire devient vraiment un moteur de création. Et du coup, la préhistoire que nous avons, nous aussi, entre nos mains aujourd'hui, elle est presque autant fabriqué par des artistes et des écrivains, Proust, Balzac, enfin Borges que vous avez cité au début de l'émission, elle est autant faite par ces grandes figures de créateurs que par des savants. Et il y a un jeu d'interaction, si vous voulez, qu'on a essayé de montrer, et effectivement on a voulu le montrer avec des documents d'époque. Il n'y a pas seulement des œuvres, il y en a plein, hein, des œuvres totalement sublimes, mais il y a aussi ce qui fait le tissu culturel dans lequel on évolue et qui a mis en avant cette préhistoire pour nous aujourd'hui.
Cécile Debré.
Oui, c'est pour ça que je réponds pour donner une représentation un peu visuelle. Hein, il y a évidemment beaucoup de grandes vitrines avec des revues, avec des moulages d'objets préhistoriques. Mais il y a également tout un parcours qui est assez exceptionnel au Centre Pompidou, qui est celui des œuvres préhistoriques. Puisqu'en fait, on réunit dans l'exposition des chefs-d'œuvre de la préhistoire, sans doute parmi les premières, la Vénus de Lespug, hein, qui est présentée au plein centre de l'exposition, et il me semble que ça n'a jamais été fait, en tout cas dans cette ampleur. On a un parcours d'œuvres préhistoriques qui sont souvent iconiques, d'ouvrages effectivement de scientifiques ou de vulgarisation, y compris des films également pour évoquer la pop culture, qui sont montrés dans le parcours de l'exposition, et évidemment, tout un parcours d'œuvres modernes.
On est au musée Beaubourg pour cette exposition Préhistoire, une énigme moderne qui ouvre. Demain, s'il fallait faire la déambulation avec vous, Cécile Debré et Rémi Labrusse.
Oui, alors la scénographie est assez significative puisque l'architecte a choisi beaucoup d'arrondis, hein, et puis sans doute un parcours un peu labyrinthique, en tout cas en volute. Et donc on commence, je dirais, de manière assez chronologique, hein, du point de vue de la modernité, mais également de la préhistoire, puisqu'on commence avec Cézanne et donc avec la Terre sans les hommes, donc cette question du temps long pour la géologie, et qui nous permet d'aborder à la fois Cézanne, Redon, qui ont été sans doute les artistes les plus sensibles à cette question de la géologie, pour ensuite aborder plutôt les années 20-30 avec des figures comme Sutherland, De Chirico, son frère Savigno ou encore Max Ernst, qui vont développer une sorte de vision presque politique liée à la question, je dirais, des origines et donc aussi de l'extinction, notamment face à cette découverte des dinosaures, hein, des fossiles de dinosaures, qui interroge effectivement sur un temps antédiluvien qui sera au centre de ces toiles, je dirais, réalisées à un moment politique très troublé, qui est celui des années 30 et qui fait écho en fait à cette vision apocalyptique. Puis on poursuit notre chemin en passant par une très grande section constituée par Rémi Labrusse et Maria Stavrinaki autour de cette question d'inventer la préhistoire, qui rassemble énormément de documents, également d'œuvres préhistoriques, d'œuvres mobilières avec des Vénus qui permettent de montrer ce qu'a été la force de ces découvertes et de ces formes qui vont évidemment influencer beaucoup, je le disais, Picasso ou encore les surréalistes. Et là, on entre dans une section qui s'appelle Hommes et bêtes, où l'on décline plusieurs typologies, beaucoup de sculptures, hein, autour de ces Vénus qui ont fait l'objet de fascination. Donc pour des artistes comme Picasso, mais également Giacometti, mais également Joseph Beuys, ou encore des artistes espagnols comme Ángel Ferrand, qui sont très sensibles à cette question de l'art préhistorique.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Préhistoire, une énigme moderne au centre Pompidou-Beaubourg jusqu'au 16 septembre. Je suis avec deux des trois commissaires de cette exposition, Cécile Debray et Rémi Labrusse. Alors, vous nous disiez que c'était beaucoup plus notre vision de la préhistoire. Comment le XXe siècle, avec ses événements, avec ses peurs, avec ses grands bouleversements, a vu le passé ou s'est retourné vers la préhistoire, qui était donc une notion moderne dans le XXe siècle. Ce que nous dit cette exposition, finalement, c'est ce que nous avons vécu durant le 19e et 20e siècle, surtout.
Enfin, c'est le titre de notre exposition, une énigme moderne. C'est-à-dire que comme la préhistoire n'est qu'une question, elle est la possibilité de toutes les projections. Donc, effectivement, c'est à la fois... je dirais un renouveau plastique qui est réel, parce que la découverte par exemple des grottes ornées va évidemment impulser profondément la question des installations, des espaces immersifs, du désordre de la composition des parois murales, et ça, beaucoup d'artistes vont s'en emparer. Mais profondément, effectivement, c'est vraiment cette réflexion sur le temps, sur l'origine, et également la sorte de vertige que vont avoir les artistes, mais également je dirais l'ensemble de la société, face à la perfection technique des objets et des représentations dans les grottes ornées. Donc en fait dans l'exposition on On marque un temps d'arrêt beaucoup sur cette question des grottes ornées qui forment une sorte de pivot hein, autour de la Seconde Guerre mondiale, autour de Lascaux, et qui nous permet d'évoquer à la fois ces questions d'échelle qui vont avoir un impact très fort tant sur des artistes américains que sur les grandes installations, par exemple de Pino Galizio qui recrée une grotte ornée, et nous poursuivons ensuite le parcours sur le tournant que représente le néolithique.
Et tout ça, on a l'impression de passer de cave en cave. D'ailleurs, il y a une caverne réellement à la manière préhistorique, comme si c'était une grotte dans cette exposition Rémi Labrusse.
Oui, le motif de la grotte, ou d'ailleurs même l'espace tout simplement de la grotte, est une structure profondément inspirante pour les artistes, en particulier à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Je pense que c'est le modèle par excellence du refuge, de ce qui va vous conduire à être plus ou moins hors du monde, tout en étant en même temps dans un univers ultra physique, hein, très 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 sensuel. Très. Et alors du coup, un certain nombre d'artistes ont reconstruit des grottes, ont créé des grottes. Cécile a parlé de Pino Galizio dans les années 50, hein, mais encore aujourd'hui, quelqu'un comme Claudio Parmigiani, qui a fait pour nous une œuvre monumentale qu'il intitule Crypte, imagine finalement cet espace donc comme une grotte dans laquelle sont disséminées des empreintes de mains sur le modèle des mains positives qui étaient donc souvent présentes dans les peintures paléolithiques, voilà, et donc présente ces empreintes de main dans une quasi-obscurité. Donc c'est une expérience très particulière hein, pour le visiteur. Finalement, il va dans un musée pour ne rien voir ou pour voir quelque chose qui apparaît de manière à peine distincte au cœur de la pénombre. Et ça, c'est vraiment l'expérience de la grotte, hein, effectivement. C'est quelque chose de matriciel, si vous voulez, quelque chose qui vous enveloppe, qui est à la fois assez inquiétant et en même temps, paradoxalement, ça se fait dans le même moment, très inquiétant, enfin, ou assez inquiétant, et profondément sécurisant. Et voilà, et c'est deux choses contradictoires, mais c'est deux choses qui existent en même temps et que l'artiste moderne essaye effectivement de bon, on a parlé de Pino Galizio ou de Parmigiani, on pourra en évoquer beaucoup d'autres, qu'il essaye de revitaliser en quelque sorte, hein, de rendre présent pour lui-même et pour nous aujourd'hui.
Parle-nous de cette grande toile de Graham Sutherland.
C'est un drôle de truc, effectivement. On est dans l'Angleterre des années 40 et 50, hein. Ce monde anglais est très inspiré par la préhistoire depuis longtemps, depuis le milieu du 19e siècle, et Sutherland fait partie de toute cette génération, donc des années 30 et 40, hein, qui va perpétuer une inspiration venue de ça. Et alors, donc, il appelle ça l'origine de la terre, l'origine du territoire, en fait il faudrait plutôt dire, parce que the origin of the land, donc c'est pas la Terre au sens de la planète, hein, c'est vraiment le territoire anglais. Et ce territoire anglais, qu'est-ce que c'est pour lui ? C'est remontant des profondeurs de la Terre des fossiles. Et le fait est qu'au 19e siècle, les premiers fossiles d'animaux disparus, de dinosaures en fait, ont été trouvés sur les côtes du sud-ouest de l'Angleterre. Hein, le Dorset en particulier, qui a été vraiment le lieu de découverte de ces fossiles. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que Sutherland s'en souvient, et il y a une dimension incontestablement nationaliste, hein, dans sa présentation, gigantesque toile, qui est une sorte de programme, en fait, de d'ode à l'éternité du sol anglais. Mais il y a évidemment beaucoup plus que ça, parce que à travers chez Sutherland, il y a aussi un rapport avec Picasso, il y a aussi un amour du sol comme tel, si vous voulez, hein, de la signification qui remonte du sol. Et on a ça à l'intérieur de cette toile, qui mesure 4 mètres de haut, donc qui vous enveloppe, hein, c'est comme si on rentrait à l'intérieur de cette couche stratigraphique, et qu'on était enveloppé par tout un monde de ptérodactyles à moitié formés d'ailleurs, qui montent des couloirs des mines de charbon de Liverpool ou d'ailleurs, quoi.
À chacun sa préhistoire, Cécile Debré.
Alors peut-être qu'il faudrait parler des artistes contemporains dans l'exposition. Effectivement, à chacun sa préhistoire. Oui, les On peut voir dans la dernière section, on a mis en présence des artistes très différents. Beaucoup reprennent cette question qui est aujourd'hui très à la mode de l'Anthropocène. Je pense par exemple à une œuvre de Pierre Huyg, Human Mask, qui montre donc dans une vidéo une mise en scène presque post-apocalyptique dans un restaurant dévasté, un singe portant un masque de petite fille servant dans un paysage de ruines. On sait que Pierre Huyg a filmé via un drone le paysage dévasté par le tsunami et la catastrophe nucléaire qui en plus est mis en relation avec la figure du singe et qui est donc tout à fait une sorte de relecture de ce fantasme de la préhistoire que l'on peut retrouver également dans le film de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, avec cette figure du singe. Donc c'est une œuvre qui est très très référencée avec beaucoup d'allusions et qui s'inscrit totalement dans cette vision, ce pas de côté par rapport à la préhistoire. Une autre œuvre également qui va sans doute fasciner le public, c'est une installation des frères Chapman qui montre une forêt de socles portant des petits dinosaures en carton-pâte et qui évoque le moment exact de l'extermination des dinosaures au moment de la chute de l'astéroïde sur la Terre. Donc une vision évidemment un peu grinçante et loufoque hein, qui est celle de l'univers de ces deux artistes anglais et qui montre bien comment le thème pop de la préhistoire, hein, celui des grandes sagas autour des dinosaures qui a été cultivé, je dirais, aux États-Unis, devient une sorte de fable politique, de miroir sur notre monde et sur cette menace de la disparition.
Puisque vous parliez justement de dinosaures, on voit le premier dinosaure animé par Winsor McCay, donc le créateur de Little Nemo. C'était en 1914, donc le début du cinématographe. Et on passe par Buster Keaton aussi, son interprétation, jusqu'à Wim Wenders.
Oui, le cinéma a été extrêmement important hein, dans la vulgarisation de la préhistoire, la fascination évidemment pour ces dinosaures. Il est assez piquant de remarquer que le premier dessin animé a été fait autour de cette figure du dinosaure. C'est toujours, en fait, ça s'appuie beaucoup sur la science-fiction qui met souvent en scène en fait une communauté scientifique, d'archéologues qui s'interrogent sur un fossile ou sur une volonté de reconstituer ce monde disparu et qui s'engagent dans une expédition à la recherche de ces espèces oubliées. Donc c'est souvent à peu près le même schéma qui est traité soit dans le thème de King Kong ou le thème de The Lost Land, The Lost World et que l'on décline de manière assez modeste hein, dans l'exposition, ouais. mais on a mis quelques jalons effectivement qui permettent d'évoquer cette culture populaire qui va être évidemment très regardée et très utilisée à partir des années 60, c'est-à-dire vraiment au moment du pop art par les artistes.
Pop culture, cinéma, mais bien avant le cinéma, il y a bien sûr des peintures, des grands chefs-d'œuvre, des grands noms, donc toiles, sculptures, des pièces assez rares, des documents de l'époque qui traversent un peu tout le XXe siècle. Comment on a abordé, on a vu, on a imaginé, on a enquêté sur la préhistoire et comment se termine cette exposition? Par quoi vous allez terminer pour qu'on reste sur cette énigme moderne qui est la préhistoire, pour reprendre l'intitulé de cette exposition, Rémi Labrusse?
Ouais, c'est exactement ça. On veut terminer par un point d'interrogation. On commence par une question et on finit par une question. Et donc la dernière salle fait écho à la première. Si vous voulez, dans la première, il y avait le crâne de l'homme de Cro-Magnon qui répondait à une petite toile de clé qui s'appelait Le Temps. Et à la fin, vous avez une petite statue des Cyclades. Donc en fait, la Grèce, juste avant, très archaïque, hein, au milieu milieu de l'âge du bronze, juste avant l'invention de l'écriture, juste avant l'arrivée de l'écriture en Grèce. Là, l'écriture existe déjà en Égypte ou en Mésopotamie, elle n'est pas encore en Grèce, pour dire, bon, on est juste avant le début de l'histoire, quoi. L'histoire au sens propre, on va écrire des histoires, premièrement. Et deuxièmement, en face, une grande installation de l'artiste de l'arte povera Giuseppe Pennone, qui s'intitule La structure du temps et qui fait écho, si vous voulez, au petit tableau de clé qui s'appelle Le temps. Hein. Donc en fait, le message, c'est celui-là. C'est ce que nous dit la préhistoire, c'est que fait-on, nous, humains, aujourd'hui, dans le temps, hein. Et comment est-ce qu'on va habiter le temps et de quelle manière on va transformer radicalement, parce qu'on y est obligé aujourd'hui, notre rapport au temps.
Et quelle trace on va laisser ?
Et qui plus est, si on laisse une trace. Hein.
Merci Rémi Labrusse, merci Cécile Debray.
Merci à vous.
Oui, merci, au revoir.
Préhistoire, une énigme moderne, c'est donc la grande exposition de l'été du Centre Pompidou, Beaubourg. Vous pouvez la visiter jusqu'au 16 septembre et elle ouvre demain. On parlera de préhistoire vendredi prochain également, notamment pour évoquer le personnage mythique de Raon. Et puis le week-end prochain, tout France Culture sera présent au Centre Pompidou pour 2 jours de programme dans le cadre du festival Imagine. Vous pouvez désormais réécouter cette émission en passant par le podcast ou l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr. Émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Antoine Viossa. Bonne matinée et à demain.